19 straight completions now for Drew Brees that ties his career high in a game. But I think he's searching for another mighty mark. Will he get it here? Yes! Touchdown pass, 540 in the 504.
Hey, Drew Brees qui a été chirurgical hier et il a offert une prestation assez, à l'image de sa carrière en quelque sorte dans une victoire de 34-7 des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Colts d'Indianapolis. Et veut pas au moment où on couronne le fait qu'il a battu le record de Peyton Manning avec une 540e passe de toucher, ça ouvre la porte pour une belle discussion sur qui a été le meilleur de tous les temps. Est-ce qu'on peut trancher ce débat-là alors qu'il y en a encore deux actifs qui sont au sommet de la hiérarchie, parce que Brady est pas très loin derrière Brees et est encore actif. Avec nous, Bruno Eppel. Bonsoir, Bruno.
Salut, Mario. Ben, première des choses, je veux dire, oui, pour les passes de toucher, Tom Brady est derrière, mais on va le garder encore devant, si on veut, de Drew Brees pour le meilleur de tous les temps. Moi, je pense qu'en ce moment, il n'y a même plus de discussion que Tom Brady pour alimenter ta prochaine question. Et le meilleur de tous les temps. C'est après qu'il faut qu'on commence à se poser des questions.
Exactement, parce que ce ne sont que des statistiques. Et pourquoi, en vertu de son nombre de passes records, Brees, tu vas me parler de championnat nécessairement, mais si tu parles, oublions les championnats, le talent brut, là. Si toi, tu avais à jouer un match demain, prends-tu Brees ou Brady?
Si j'ai à jouer demain, en ce moment, de la façon dont les deux corps jouent cette saison, tu prends Drew Brees, puis évidemment, on le voit par son jeu. Évidemment, il y a une meilleure équipe autour de lui. Mm-hmm. Un joueur ne fait pas une équipe. Un quart arrière peut carrément décider d'une victoire et d'une défaite, mais ça reste un joueur. En ce moment, Drew Brees a une meilleure équipe. Et il est au sommet de son art. Il est aussi 3 ou 4 ans plus jeune que, tu sais, je pense que Tom Brady a 42 ans, alors que Drew Brees en a 39. On parle des petits vieux, là, mais c'est la réalité, c'est qu'on parle de gars qui a encore 3 ans plus jeune. Il reste plusieurs années, on s'en est rendu compte hier. Mais il est définitivement dans les meilleurs. Maintenant, il faut que tu décides où il se situe quand tu parles de meilleur de tous les temps. Moi, je mettrais Tom Brady, Peyton Manning, 5 fois MVP de la Ligue, là. 5 fois joueur par excellence, 2 bagues du Super Bowl. Si Drew Brees ajoute une bague cette année, là, on va le rentrer vraiment dans la discussion. Est-ce qu'il devient meilleur que Peyton Manning? Même s'il n'a pas encore gagné, Mario, dans tous ses exploits, parce que je regardais ses records, il y a 25 records là, environ à lui présentement, dont le plus grand nombre de passes de toucher, puis il n'a jamais été le joueur par excellence. Est-ce que ça va être cette année où on va lui préférer un Lamar Jackson? Et j'ai bien hâte de voir, malheureusement, et c'est plate, parce que Drew Brees a toujours été comme le deuxième meilleur, même dans les années où Peyton Manning gagnait le joueur par excellence. Je viens de dire qu'il l'a gagné 5 fois, je pense. Drew Brees, lui, était souvent le deuxième meilleur. Mais pendant tout ce temps-là, il a été dans les meilleurs. Et c'est là qu'il rentre dans la discussion de à quel point il se situe. Moi, je pense qu'il est dans les top 5, c'est sûr, là. Je pense qu'il déloge Dan Marino. Pas mal sûr que s'il finit par gagner le Super Bowl cette année, puis finalement gagner un joueur par excellence, il peut déloger un John Elway. Là, pour les plus vieux, est-ce qu'il déloge un Bart Starr, un Johnny Unitas? Mais il est vraiment dans la discussion en ce moment de tous ces grands de l'histoire qu'on est en train de nommer. Là.
Il y a des gens de tous âges qui nous écoutent, des jeunes, des moins jeunes, et tu as nommé quelques noms qui font référence à des époques plus lointaines, et je ne crois pas, à moins que j'ai eu une petite distraction, puis les gens doivent avoir hâte, les amateurs de football, qu'on prononce le nom de Joe Montana. Joe Montana, ça se calcule pas en passes de toucher, bon, mais...
Je l'ai même pas nommé, mais il est dans la discussion, on a ce monsieur, j'ai oublié, parce qu'on en a tellement, mais Joe Montana est dans le top 5 aussi, là, selon moi. Il est peut-être le deuxième derrière Tom Brady.
Derrière Brady, hein? Certains palmarès que j'ai consultés chez nos experts de football au Sud, Montana est classé deuxième dans à peu près... Dans ce que j'ai vu, moi, il est derrière Brady dans à peu près tous les palmarès,
Mario,
que j'ai vus.
J'ai vraiment oublié de le mentionner parce qu'on a tellement de gros noms.
Ben oui, puis je t'en tiens pas à rigueur, là.
J'ai loin devant Dan Marino et John Elway, pour moi, là, ça dépend. T'sais, les gens vont nous écouter en ce moment, qui sont en voiture ou peu importe où ils sont, on a toute notre idée en bout de ligne, c'est tout le top 10 qu'on est en train de mentionner. Puis là, ça dépend où tu mets Drew Brees dans cet ordre-là. Mm-hmm. Mais pour moi, Drew Brees, avec ce qu'il a fait hier, puis de la façon dont il l'a fait, 29 en 30. T'sais, et s'il y a une chose qu'on a appris de Drew Brees, quand il a eu l'occasion cette année de battre des records, il l'a fait de façon grandiose. Hier encore, ça a été fait de façon grandiose. 29 en 30, le soir où tu atteins le titre de plus grand passeur de passe de toucher de l'histoire, il l'a fait de belle façon.
Et il y a quelque chose d'impressionnant dans la durabilité de gars comme Drew Brees, Tom Brady. Montana a joué assez quand même tard dans sa carrière. Oui. Peyton Manning a étiré ça au maximum. Comment tu peux t'expliquer que dans une position aussi névralgique, aussi cruciale que celle de quart arrière au football, c'est sûr qu'il n'y a pas 82 matchs, il faudrait pas, là, ils seraient tous à moitié morts à 26 ans. Mais c'est sûr. Mais comment...
Oui, c'est vrai.
As-tu une explication à ça? Moi, ça m'impressionne de voir ce gars-là aller aux âges qu'ils ont.
Oui, bien, les gars que tu nommes, là, c'est tous des passeurs qui décochent rapidement, hein, qui n'ont jamais basé leur succès sur leur mobilité, mais plutôt sur tout ce qui est cérébral, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est comprendre ce qui se passe avant que le ballon soit mis en jeu et décocher le ballon et les passes rapidement. C'est pour ça qu'ils ont été capables de battre des records de longévité. C'est aucunement basé sur leur qualité athlétique au niveau du déplacement, mais plutôt bien de ce qui est entre les deux oreilles. Puis évidemment, il y a la technique, il y a la puissance du bras.
Non, mais d'éviter de se faire bulldozer à répétition, ouais, c'est ça. Ça prend une bonne ligne offensive. Puis les équipes qui ont compté sur des quarts de cette qualité se sont organisées pour les protéger. Sinon, ça ne te donne rien d'avoir un quart de cette qualité-là si tu n'es pas capable d'avoir une ligne qui va permettre d'exploiter le talent.
N'importe qui a regardé le match d'hier le voit. Là. Tu sais, Drew Brees, hier, 29 en 30. Il n'y a pas personne qui s'est approché de Drew Brees. Il a, de loin, une des meilleures, sinon la meilleure ligne offensive de la Ligue. Puis malgré les blessures, on s'est assuré d'avoir de la profondeur du côté des Saints, justement pour protéger notre corps de concession. Puis c'est pour ça qu'il est capable de s'exécuter et d'avoir du succès. Puis ça revient à ce que je disais. Il n'y a pas d'un grand groupe de receveurs en ce moment à sa disposition. Tu sais, quand tu regardes du côté de Drew Brees, est-ce que tu as un grand groupe de receveurs? Non, mais tu as le meilleur en ce moment à sa position, Michael Thomas. Et c'est toute beauté de les voir aller. Là.
On en voit des talents arriver là, au fil des ans dans la NFL au poste de quart arrière. Il y a des gars qu'on n'a même pas nommés, Brett Favre, mais je reviens dans le présent. Dans le passé très, très récent. Tu sais, quand on a vu des gars comme RG3 arriver, on s'est dit « Wow, il va secouer la NFL pendant de nombreuses années. » Puis finalement, ça n'a été qu'une étoile filante jusqu'à preuve du contraire. Lamar Jackson arrive et il nous jette tous par terre, mais son style de jeu pour enchaîner avec ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'est des passeurs qui ont joué longtemps. Je ne sais pas si Lamar Jackson pourra avoir une carrière de ce type-là, une longue carrière, parce qu'à un moment donné, il va s'exposer à se faire frapper. Mais ma question est, parmi tous les brillants quarts arrière actuels de la NFL, en vois-tu un rejoindre les légendes dans 10, 15, 20 ans d'ici?
Eh mon Dieu, là, tu me poses une question, il faudrait que tu me donnes des noms devant moi. Parce que
des Mahomes, des Jared Goff, des Carson. Écoute,
moi, je te dirais qu'en ce moment... Quand on regarde rapidement dans les jeunes corps arrière... Russell Wilson est assurément Russell Wilson, parce que lui, il a comme jumelé les deux. Tu sais, il est capable de se fier sur le fait qu'il est un excellent athlète.
Oui.
Il est un passeur, très, très bon passeur. Est-ce qu'il va avoir... La longévité, là, pour moi, va devenir la clé dans ce que tu me nommes. Lamar Jackson, avec les jeux qu'on appelle pour lui... Je ne peux pas voir ça perdurer. Là. T'sais, Lamar Jackson, il y a des jeux au sol appelés pour lui dans le caucus. Là. Il sort de là et il est le porteur de ballon. Ça ne peut pas être durable pendant 15 ans, à mon avis. C'est impossible. Là. À un moment donné, ça va devoir s'arrêter parce qu'il va être capable de lui s'adapter. Mais Russell Wilson, c'est un bon choix. Tu me parles de Patrick Mahomes. Il est mobile, mais il se déplace pour passer le ballon avant toute chose. C'est peut-être celui en ce moment qui est le plus grand prodige de ce qu'on se voit.
En tout cas, il y a eu tout un début de carrière à date et c'est jeune encore pour même l'inclure dans ça, mais on peut projeter que s'il continue d'avoir des bons receveurs, d'avoir une bonne ligne offensive, que c'est un gars qui va...
L'autre chose, quand tu regardes les quarts dont on parle, l'entraîneur-chef qu'ils ont, tu sais, Drew Brees a Sean Payton, Tom Brady a Bill Belichick, Patrick Mahomes a Andy Reid. Ça prend aussi ça, là. Ça prend un carrière qui a le même entraîneur. On parle de Tony Dungy pour Peyton Manning jusqu'à la fin de sa carrière, à part quand il est arrivé avec les Broncos. Ça prend un bon duo. Ça prend pas juste un bon corps.
Non, vraiment. J'ajoute juste quelques noms pour conclure la discussion. Certains que tu as peut-être déjà prononcés. Johnny Unitas, qui remonte à une certaine époque. Roger Staubach, évidemment, dont on se rappelle. Les plus âgés vont s'en souvenir. Dan Marino, on en a parlé avec les Dolphins. Et un nom qu'on a pas...
Ça va nous autres, ça.
Oui, John Elway et Aaron Rodgers. Rodgers, toujours actif, toujours impressionnant à voir aller sur un terrain.
Dan Marino, là, c'était dans... Aujourd'hui, Dan Marino, avec le style de jeu qu'on a, le genre de passeur qu'il était, il serait en train de battre encore plus les records que ce qu'on voit présentement, que ce qu'il a battu. Fait qu'il faut pas l'oublier, même s'il n'y a pas de bague du Super Bowl, c'était un ultra talentueux.
J'ai eu l'occasion de passer un bon moment avec Dan Marino déjà, et un bonhomme fort sympathique, je dis ça en ça se dit bien, une conversation, mais il était venu au tournoi des...
Quand même!
Ben quand même! Hein,
c'est impressionnant, c'est le fun, ça. C'est un genre de bucket list pour moi, là.
Ouais, mais il était venu au tournoi de golf des célébrités de Mario Lemieux, je sais pas si tu te rappelles de ça, à Mont-Tremblant.
Oui, j'imagine, ouais, il faisait un gros tournoi.
Ouais. J'ai une photo de Karel que tu connais, mon fils aîné, oui. avec Dan Marino, puis il avait vraiment été fin, parce qu'honnêtement, ça n'avait pas été un méga... Il n'y en avait pas 1000 de célébrités. Là. Il n'y en avait pas des tonnes. Et c'était l'une des grosses, tu peux le deviner. Et il avait été d'une gentillesse très, très accessible. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai un bon souvenir de la visite de Marino ici. Et puisqu'on t'a avec nous et qu'on parle de football, Bruno, tu as pris connaissance un petit peu de Ligue canadienne en terminant notre conversation. La Ligue canadienne va avoir une stratégie différente de diffusion des matchs en 2020. Donc, on cède le dimanche. Tu sais, d'ailleurs, comme dans le film Concussion, là, que vous avez peut-être regardé, on dit que le dimanche, c'est une journée sacrée, c'est une journée de télévision qui appartient à la NFL. Ben, la LCF a compris en 2019 qu'il fallait céder le dimanche à la NFL. Comment tu accueilles cette nouvelle-là?
Ben, je vais commencer par dire dur de comprenure. à RDS depuis plusieurs années. Et l'an passé, les Alouettes se sont tenues loin des dimanches. Et c'est drôle, oui, ils ont eu des succès, mais les foules étaient très bonnes pour leur match à domicile. Le dimanche, tu compétitionnes contre quelque chose qui est beaucoup, beaucoup trop gros et surtout beaucoup plus gros que toi. Moi, je suis content de cette nouvelle-là. C'est une bonne affaire, là. On a le vendredi, on a le jeudi, on a le samedi pour jouer des matchs de football de la Ligue canadienne.
Forgez-vous d'autres rendez-vous. Ben oui, appropriez-vous votre journée à vous autres. Puis j'ai bien hâte de voir comment ça va se traduire.
Exact. Bonne nouvelle.
Merci, Bruno.
Salut, Mario. Bye-bye.
Bonne soirée. Voilà. Et dans quelques instants, on va passer du foot au baseball. Mais pas comme vous l'anticipez. On va parler de la balle de baseball comme telle. Il y a pas mal de science derrière ça. Puis est-ce que c'est un prétexte pour parler de dopage? Est-ce qu'on fera plus de circuits à cause de la balle ou à cause du dopage? Parce que dans le temps, quand on s'est mis à fendre des balles en deux, puis à les scier en deux, à l'époque de Sosa, McGuire et compagnie, eh ben c'est parce qu'on voulait étudier qu'est-ce qu'il y avait dans la balle. On revient tout de suite avec Alex. Regardez.